Vous écoutez France Culture.
Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin. Réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Treizième épisode.
La barricade est tombée. Le révolutionnaire Enjolras et ses amis sont fusillés. Jean Valjean trouve Marius blessé, inconscient, et s'enfuit par les égouts en le portant sur son dos. Alors qu'ils arrivent devant une grille fermée, Thénardier surgit avec une clé. Il fouille les poches de Jean Valjean, lui extorque de l'argent et ouvre. Dehors, Javert est là. Il arrête Jean Valjean mais accepte que Marius, toujours inconscient, soit porté chez son grand-père, M. Gillenormand. Il libère finalement Jean Valjean avant de se jeter dans la Seine. Marius se remet peu à peu chez son grand-père. Jean Valjean et Cosette lui rendent visite.
Cosette et Marius se revirent. Ce que fut l'épreuve, nous renonçons à le dire. Il y a des choses qu'il ne faut pas essayer de peindre. Le soleil était d'une ombre. Toute la famille, y compris Basque et Nicolette, était réunie dans la chambre de Marius ce moment où Cosette entra. Elle apparut sur le seuil. Il semblait qu'elle était dans un nimbe. Elle était aussi effarouchée qu'on peut l'être par le bonheur. Elle balbutiait, toute pâle, toute rouge, voulant se jeter dans les bras de Marius et n'osant pas. Honteuse d'aimer devant tout ce monde. On est sans pitié pour les amants heureux. On reste là quand ils auraient le plus envie d'être seuls. Avec Cosette et derrière elle, était entré un homme en cheveux blancs, grave, souriant néanmoins, mais d'un vague et poignant sourire. C'était M. Fauchelevent. C'était Jean Valjean. Il était très bien mis, comme avait dit le portier, entièrement vêtu de noir et de neuf, et en cravate blanche.
Monsieur Tranchelevent.
Le père Gillenormand ne le fit pas exprès, mais l'inattention au nom propre était chez lui une manière aristocratique.
J'ai l'honneur de vous demander pour mon petit-fils, monsieur le baron Marius Pontmercy, la main de mademoiselle. C'est dit. Permission de vous adorer.
Oh mon Dieu, je vous revois. C'est toi, c'est vous. Être allé se battre comme cela. Mais pourquoi ? Pendant 4 mois, j'ai été morte. Oh, que c'est méchant d'avoir été à cette bataille. Qu'est-ce que je vous ai fait? Je vous pardonne, mais vous ne le ferez plus. Tout à l'heure, quand on est venu nous dire de venir, j'ai encore cru que j'allais mourir. Mais c'était de joie. J'étais si triste. Je n'ai pas pris le temps de m'habiller, je dois faire peur. Qu'est-ce que vos parents diront de me voir une collerette toute chiffonnée? Mais parlez donc, vous me laissez parler toute seule.
Ange.
Ange est le seul mot de la langue qui ne puisse s'user. Aucun autre mot ne résisterait à l'emploi impitoyable qu'en font les amoureux.
Et parlez donc, ô vous autres. Allons, un peu de brouhaha, que diable, que ces enfants puissent jaser à leur aise. Tutoyez-vous, ne vous gênez pas. Quelle est jolie cette ingreuse. Tiens, je suis amoureux de vous, mademoiselle. C'est tout simple. Oh, la belle, jolie, charmante petite noce que cela va faire. Elle est exquise, cette mignonne. C'est un chef-d'œuvre, cette Cosette-là. Elle est très petite fille et très grande dame. Adorez-vous. Seulement, quel malheur, voilà que j'y pense. Plus de la moitié de ce que j'ai est en viager. Tant que je vivrai, cela ira encore. Mais après ma mort, dans une 20aine d'années d'ici... Oh, mes pauvres enfants, vous n'aurez pas le sou.
Mademoiselle Euphrasie Fauchelevent a 600 000 francs.
Et qu'est-ce que c'est que cette mademoiselle Euphrasie en question?
C'est moi.
600 000 francs? Ceci arrange bien des choses. Ce diable de Marius, il vous a déniché dans l'arbre des rêves une grisette millionnaire. Fiez-vous donc maintenant aux amourettes des jeunes gens. Les étudiants trouvent des étudiantes de 600 000 francs.
On a sans doute compris que Jean Valjean, après l'affaire Champmathieu, avait pu, grâce à sa première évasion de quelques jours, venir à Paris et retirer à temps de chez Lafitte la somme gagnée par lui sous le nom de M. Madeleine à Montreuil-sur-Mer, et qu'il l'avait cachée et enfouie dans la forêt de Montfermeil, au lieu-dit le fonds Blaru. Dans le même coffret, il avait mis son autre trésor, les chandeliers de l'évêque de Digne. Plus tard, chaque fois qu'il avait besoin d'argent, il venait en chercher à la clairière Blaru. De là, les absences dont nous avons parlé. Du reste, Jean Valjean se savait délivré de Javert. On avait raconté devant lui, et il avait vérifié le fait dans le Moniteur, qu'un inspecteur de police nommé Javert avait été trouvé noyé sous un bateau de blanchisseuse entre le pont au Change et le pont Neuf. On prépara tout pour le mariage. Le médecin consulté déclara qu'il pourrait avoir lieu en février. Quelques ravissantes semaines de bonheur parfait s'écoulèrent. Cosette et Marius étaient passés brusquement du sépulcre au paradis.
Comprends-tu quelque chose à cela ?
Non, mais il me semble que le bon Dieu nous regarde.
Jean Valjean fit tout, aplanit tout, rendit tout facile. Comme il avait été maire, il sut résoudre un problème délicat dans le secret duquel il était seul, l'état civil de Cosette. Cosette était ce qui restait d'une famille éteinte. Cosette n'était pas sa fille à lui, mais la fille d'un autre Fauchelevent. Deux frères Fauchelevent avaient été jardiniers au couvent du Petit Picpus. On alla à ce couvent. Les bonnes religieuses dirent ce qu'on voulut. Cosette devint, devant la loi, Mademoiselle Euphrasie Fauchelevent. Jean Valjean s'arrangea de façon à être désigné comme tuteur de Cosette. Elle apprit qu'elle n'était pas la fille de ce vieux homme qu'elle avait appelé père. Ce n'était qu'un parent. Dans un tout autre moment, cela l'eût navrée, mais à l'heure ineffable où elle était, ce ne fut qu'un peu d'ombre. Elle avait Marius. Le jeune homme arrivait, le bonhomme s'effaçait. La vie est ainsi. Elle continua pourtant de dire à Jean Valjean « père ». Le mariage se fit donc le 16 février 1833. Nous ne mènerons le lecteur ni à la mairie, ni à l'église. On ne suit guère deux amoureux jusque-là. Le matin du 17 février, il était un peu plus de midi, quand Basque, occupé à faire son antichambre, entendit un léger frappement à la porte.
Dame, monsieur, nous nous sommes réveillés tard.
Votre maître a-t-il levé ?
Je vais voir. Je vais lui dire que M. Fauchelevent est là.
Ne lui dites pas que c'est moi. Je veux lui faire une surprise.
C'est vous, père. Mais vous venez de trop bonne heure. Cosette dort. Que je suis content de vous voir. Si vous saviez comme vous nous avez manqué hier, Cosette vous aime tant. Vous n'oubliez pas que vous avez une chambre ici. Nous ne voulons plus de la rue de l'homme armé. Vous avez conquis mon grand-père, vous lui allez. Nous vivrons ensemble. C'est vous qui mènerez promener Cosette mes jours au palais. Vous savez, comme au Luxembourg autrefois, nous sommes décidés à être très heureux. Et vous en serez de notre bonheur. Entendez-vous, père ? Vous déjeunez avec nous aujourd'hui ?
Monsieur, j'ai une chose à vous dire. Je suis un ancien forçat. Il convenait que je fusse absent de votre mariage. Je me suis fait absent le plus que j'ai pu.
Qu'est-ce que cela veut dire ?
Cela veut dire que j'ai été 19 ans aux galères, pour vol, pour récidive. À l'heure qu'il est, je suis en rupture de ban.
Vous me rendez fou ? Dites tout. Vous êtes le père de Cosette ?
Il est nécessaire que vous me croyiez ici. Le père de Cosette, moi, devant Dieu, non. Monsieur le baron Pontmercy, je suis un paysan de Faverolles. Je gagnais ma vie à émonder les arbres. Je m'appelle Jean Valjean. Je ne suis rien à Cosette, rassurez-vous.
Qui me prouve ?
Moi, puisque je le dis.
Je vous crois.
Que suis-je pour Cosette ? Un passant ? Il y a 10 ans, je ne savais pas qu'elle existât. Je l'aime, c'est vrai. Une enfant qu'on a vue petite, étant soi-même déjà vieux, on l'aime. Quand on est vieux, on se sent grand-père pour tous les petits-enfants. Vous pouvez, ce me semble, supposer que j'ai quelque chose qui ressemble à un cœur. Elle était orpheline, elle avait besoin de moi. Voilà pourquoi je me suis mis à l'aimer. C'est si faible, les enfants, que le premier venu, même un homme comme moi, peut être leur protecteur. Aujourd'hui, Cosette quitte ma vie. Nos deux chemins se séparent. Elle est Madame Pontmercy. Sa providence a changé. Et Cosette gagne au change. Tout est bien.
Mais enfin, pourquoi me dites-vous tout cela? Vous pouviez garder le secret à vous-même. À quel propos faites-vous cet aveu? Pour quel motif?
Le motif est étrange. C'est par honnêteté. Tenez, ce qu'il est de malheureux, c'est un fil que j'ai là dans le cœur et qui me tient attaché. J'ai essayé de le rompre. Il a tenu bon. Vous m'offrez une chambre dans la maison. Nous vivrons en famille. Non. Je ne suis d'aucune famille, moi. Je ne suis pas de la vôtre. Je ne suis pas de celle des hommes. Je pouvais mentir, c'est vrai. Tant que cela a été pour elle, j'ai pu mentir. Mais maintenant, je ne le dois pas. Donc, j'ai pris mon mystère et je voulais apporter. Toute la nuit, je me suis débattu. Est-ce que j'ai le droit d'être heureux? Je suis hors de la vie. Monsieur Pontmercy, je suis un honnête homme. C'est en me dégradant à vos yeux que je m'élève aux miens. Quand on a une telle horreur sur soi, on n'a pas le droit de la faire partager aux autres à leur insu. Pour vivre, autrefois, j'ai volé un pain. Aujourd'hui, pour vivre, je ne veux pas voler un nom.
Mon grand-père a des amis. Je vous aurai votre grâce.
C'est inutile. On me croit mort. Ça suffit. La mort, c'est la même chose que la grâce. Je n'ai besoin que d'une grâce. Celle de ma conscience.
Parions que vous parlez politique. Que c'est bête. Au lieu d'être avec moi.
Cosette.
Je vous prends en flagrant délit. Je viens d'entendre mon père qui disait « La conscience, faire son devoir. On ne doit pas parler politique dès le lendemain. Ce n'est pas juste. » Oh, comme je suis contente. Je vais m'installer près de vous, sur un fauteuil. Je serai bien sage.
Nous parlons affaires.
Père, vous êtes pâle? Est-ce que vous êtes triste? Embrassez-moi. Si vous vous portez bien, si vous êtes content, je ne vous gronderai pas. Souriez.
Cosette.
Je t'adore. Je reste.
Cela non. Nous avons quelque chose à terminer.
C'est bon. On s'en va.
Pauvre Cosette. Quand elle va savoir.
Monsieur, je vous en conjure. Donnez-moi votre parole la plus sacrée. Ne le lui dites pas. Oh, je voudrais mourir.
Soyez tranquille. Je garderai votre secret pour moi seul.
Il me reste une dernière chose.
Laquelle?
À présent que vous savez, croyez-vous que je ne dois plus voir Cosette?
Je crois que ce serait mieux.
Je ne la verrai plus. Tenez, monsieur, si vous voulez, je viendrai la voir. Je voudrais bien la voir encore un peu. Et puis, il faut prendre garde. Si je ne venais plus du tout, il y aurait un mauvais effet. Ce que je puis faire, c'est de venir le soir, quand il commence à être nuit.
Vous viendrez tous les soirs et Cosette vous attendra.
Vous êtes bon, monsieur.
Le lendemain, à la nuit tombante, Jean Valjean frappait à la porte cochère de la maison Gillenormand. Ce fut Basque qui le reçut.
Monsieur le baron m'a chargé de demander à monsieur s'il désire monter ou rester en bas.
Restez en bas.
Je vais prévenir madame.
La pièce où Jean Valjean entra était un rez-de-chaussée voûté et humide, servant de cellier dans l'occasion, donnant sur la rue et mal éclairé d'une fenêtre à barreaux de fer.
Ah bien, voilà une idée. Père, je savais que vous étiez singulier, mais jamais je ne me serais attendu à celle-là. Marius m'a dit que c'est vous qui voulez que je vous reçoive ici.
Oui, c'est moi.
Je vous préviens que je vais vous faire une scène. Commençons par le commencement. Père, embrassez-moi. Vous ne bougez pas ? Attitude de coupable. Mais c'est égal, je vous pardonne. Jésus-Christ a dit « Tendez l'autre joue ». La voici. Ceci devient sérieux. Qu'est-ce que je vous ai fait ? Je me déclare brouillé. Vous me devez mon raccommodement. Vous dînez avec nous.
J'ai dîné. Ne m'appelez plus père. Appelez-moi monsieur Jean, si vous voulez.
Vous n'êtes plus père ? Je ne suis plus Cosette ? Regardez-moi donc un peu en face. Et vous ne voulez pas demeurer avec nous ? Il y a donc eu quelque chose ?
Rien. Tout est comme à l'ordinaire.
Pourquoi changez-vous de nom ?
Puisque vous êtes madame Pontmercy, je puis bien être monsieur Jean.
Vous n'avez pas le droit d'être méchant, vous qui êtes bon. Oh, soyez bon. Voilà ce que j'appelle être bon. Venir demeurer ici, reprendre nos bonnes petites promenades. Il y a des oiseaux ici, comme rue Plumet. Vivre avec nous, quitter ce trou de la rue de l'Homme Armé. Être comme tout le monde, dîner avec nous. Être mon père.
Vous n'avez plus besoin de père. Vous avez un mari.
Je n'ai plus besoin de père. On ne sait que dire, vraiment.
Il n'y a rien de nouveau. J'ai toujours aimé mon coin noir.
Mais il fait froid ici. Je ne veux pas que vous me disiez, vous. Ouh, le vilain ours. Vous m'en voulez donc de ce que je suis heureuse ?
Son bonheur. C'était le but de ma vie. Cosette, tu es heureuse. Mon temps est fait.
Ah, vous m'avez dit tu. Merci, père.
Je vous quitte, madame. On vous attend. Je vous ai dit tu. Dites à votre mari que cela ne m'arrivera plus. Pardonnez-moi.
Jean Valjean sortit, laissant Cosette stupéfaite de cet adieu énigmatique. Le jour suivant, à la même heure, Jean Valjean vint. Cosette ne lui fit pas de questions, ne s'étonna plus. Elle évita de dire ni père, ni monsieur Jean. Elle se laissa dire « vous », elle se laissa appeler « madame ». Seulement, elle avait une certaine diminution de joie. Elle eût été triste si la tristesse lui eût été possible. Marius s'arrangea de manière à être absent aux heures où Jean Valjean venait. La maison s'accoutuma à la nouvelle manière d'être de M. Fauchelevent. Le grand-père rendit ce décret, c'est un original. Et tout fut dit. Personne n'entrevit le dessous sinistre. Qui eût d'ailleurs pu deviner une telle chose ? Plusieurs semaines se passèrent ainsi. Une vie nouvelle s'empara peu à peu de Cosette. Les relations que crée le mariage, les visites, les soins de la maison. Les plaisirs de Cosette n'étaient pas coûteux. Ils consistaient en un seul, être avec Marius. Sortir avec lui, rester avec lui, c'était là la grande occupation de sa vie. Jean Valjean venait tous les jours. Le tutoiement disparu, le madame, le monsieur Jean, tout cela le faisait autre pour Cosette. Le soin qu'il avait pris lui-même à la détacher de lui lui réussissait. Elle était de plus en plus gaie et de moins en moins tendre. Un jour, elle lui dit tout à coup
« Vous étiez mon père, vous ne l'êtes plus. Vous étiez monsieur Fauchelevent, vous êtes Jean. Qui êtes-vous donc ?
Je n'aime pas tout ça. Si je ne vous savais pas si bon, j'aurais peur de vous.
L'œil finit par s'habituer au jour de cave. En somme, avoir tous les jours une apparition de Cosette, cela lui suffisait. Depuis quelque temps, il remarquait la vie étroite que menait le jeune couple. Il en était importuné. L'économie de Marius était sévère, et le mot pour Jean Valjean avait son sens absolu. Il était évident que Marius avait des doutes sur l'origine des 600 000 francs, qu'il hésitait devant cette fortune suspecte, et répugnait à la prendre comme sienne, aimant mieux rester pauvre, lui et Cosette, que d'être riche d'une richesse trouble. En outre, vaguement, Jean Valjean commençait à se sentir éconduit. Le jour d'après, il ne vint pas. Pendant les premiers mois de l'été 1833, les passants du Marais remarquaient un vieillard proprement vêtu qui, tous les jours, vers la même heure, à la nuit tombante, sortait de la rue de l'Homme-Armé. Il marchait à pas lents et atteignait la rue des Filles du Calvaire. Alors il s'arrêtait, il tremblait, il regardait dans cette rue, puis il s'en retournait. Tout son visage exprimait cette unique idée. À quoi bon ? C'est une terrible chose d'être heureux. Comme on s'en contente. Disons-le pourtant, on aurait tort d'accuser Marius. Il s'était borné à éloigner peu à peu Jean Valjean de sa maison et à l'effacer le plus possible dans l'esprit de Cosette. Quant à Cosette, il serait dur de la condamner, elle aussi. Elle était plutôt étourdie qu'oublieuse. Au fond, elle aimait bien celui qu'elle avait si longtemps nommé son père. Mais elle aimait plus encore son mari. La jeunesse va où est la joie, aux fêtes, aux vives clartés, aux amours. La vieillesse va à la fin. On ne se perd pas de vue, mais il n'y a plus d'étreinte. Les jeunes gens sentent le refroidissement de la vie, les vieillards celui de la tombe. N'accusons pas ces pauvres enfants. Jean Valjean un jour descendit son escalier, fit trois pas dans la rue, s'assit sur une borne, cette même borne où Gavroche, dans la nuit du 5 au 6 juin, l'avait trouvé songeant. Il resta là quelques minutes, puis remonta. Ce fut la dernière oscillation du pendule. Le lendemain, il ne sortit pas de chez lui. Le surlendemain, il ne sortit pas de son lit.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskin. 13e épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vigning, Jean Valjean, Jean-Gabriel Nordman, Monsieur Gillenormand, Aurélie Nusillard, Cosette, Clément Bondu, Marius. Et les voix de Séguir Mohamedi et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Levy. Bruitage, Patrick Martinache. Prise de son, montage, mixage, Catherine Dereté et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation, Laure-Hélène Planchet. Réalisation, François Christophe.